Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, tous les 15 jours, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Marjorie Soria, fondatrice de Beraya. Beraya est une toute jeune entreprise qui propose des rasoirs de sûreté, c'est-à-dire des rasoirs plus solides, plus économiques et surtout plus durables que les rasoirs traditionnels. Conçus en plastique, ces rasoirs ont une durée de vie exceptionnelle. Dans cet épisode, Marjorie nous raconte d'abord le cheminement qui l'a amené à adopter un mode de vie zéro déchet et à y convertir l'ensemble de son foyer. Elle nous explique comment elle arrive à concilier, tant bien que mal, vie professionnelle, vie d'entrepreneur et vie de famille, et surtout pourquoi tout est une question d'équilibre. Lorsqu'elle a créé Beraya l'année dernière, Marjorie a choisi de se lancer et de foncer, même si elle ne se sentait pas encore prête. Elle vous livre ici tous ses conseils pour entreprendre et pour mener à bien le projet qui vous tient à cœur. Un épisode riche en conseils qui, j'espère, vous plaira. Bonne écoute à tous! Pour cette semaine consacrée au zéro déchet, je reçois Marjorie. Donc Marjorie, elle habite à Hong Kong, tout comme moi, et on va revenir avec elle sur son histoire et son parcours en fait dans le zéro déchet et pourquoi elle en est arrivée à décider d'entreprendre et de créer sa société dans ce domaine-là. Donc bonjour Marjorie.
Bonjour.
Donc toi, aujourd'hui, tu as créé une entreprise en fait qui fabrique des rasoirs réutilisables.
Exactement.
Donc on va en parler un petit peu plus en détail après, de comment l'idée t'est venue, comment tu as monté ce projet et tout ça. Mais avant, je voulais vraiment qu'on s'intéresse à toi, ce qui t'a amené à t'impliquer dans une démarche zéro déchet, où aujourd'hui chez toi tu n'as plus de poubelle.
Presque.
Presque plus. Mmh. En tout cas, t'as pas de... L'objet poubelle n'existe pas chez toi.
Non. On n'est pas si parfait que ça, mais on essaie de réduire au minimum, oui.
Voilà, et donc on va d'abord s'intéresser un peu à tout ce qui t'a amené à ce cheminement, et ensuite on viendra sur la création de ton entreprise Beraya un petit peu après. Donc est-ce que avant de déménager à Hong Kong il y a 6 ans, tu étais déjà investie dans cette démarche zéro déchet, ou est-ce que c'est le fait de venir ici et d'être confrontée à cette surconsommation, ce plastique omniprésent qui a fait changer les choses ?
Non, je pense que ça remonte à plus longtemps que ça, sans pour autant que je connaisse le concept. Quand je suis arrivée à Hong Kong il y a 6 ans, je ne connaissais pas ce que c'était le zéro déchet, mais je viens d'une famille, d'un environnement où on a toujours composté, où on avait un jardin, un poulailler, les œufs venaient du jardin, donc il y avait une sorte déjà d'économie un peu circulaire à l'intérieur de la maison. Donc j'ai grandi en apprenant à faire un petit peu plus attention justement à ce qu'on consomme, puisque quand tu apprends à le faire pousser, à le cueillir, à le récolter, tu apprécies un peu plus. J'ai commencé à me poser des questions quand effectivement je suis arrivée à la ville, mais je pense que c'est un peu cliché, mais c'est surtout quand je suis tombée enceinte, où on se commence à se poser des questions, on se dit quel est le monde dans lequel nos enfants font grandir, qu'est-ce qu'on veut lui inculquer comme valeur, et même si je pensais que je faisais des efforts, tout d'un coup j'ai commencé à regarder un peu, je me dis putain, il y a quand même quelque chose à faire, et j'ai commencé à analyser comment consommer et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin. Donc c'est parti de là.
Et est-ce que tu as lu des choses, consulté des blogs? Comment tu t'y es pris? Parce qu'en fait, tu connaissais déjà un petit peu les principes sans connaître le mouvement, qui est un petit peu devenu une mode aussi. Donc, quelles ont été les premières étapes pour toi pour réduire tes déchets?
Je pense que les premières étapes, ça a été à chaque fois que je mettais quelque chose dans la poubelle, je fonçais sur Google et je tapais... alternative coton, alternative Ziploc, des choses comme ça. Après, Instagram a beaucoup joué parce que on trouve énormément de ressources, beaucoup de personnes qui partagent des recettes, des astuces et ça aide pas mal. Après voilà, c'est tout un cheminement. Je saurais même pas dire à peu près quand est-ce que ça a commencé. Il y a aussi un sentiment au début de passer pour la personne un peu bizarre. Donc, pendant très longtemps, quand j'étais en groupe, je n'osais pas dire non aux gobelets en plastique. Je n'osais pas dire non aux emballages quand on était en train d'acheter un takeaway avec des amis parce que j'avais peur de passer pour la bobo écolo un peu bizarre. Et puis, petit à petit, non, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, non, ça ne sert à rien. C'est ridicule de penser comme ça. Tu fais ce que tu penses être bien et voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire encore plus de changements au sein du foyer. Donc, je ne suis pas toute seule. Donc, il y a beaucoup de monde à convaincre. Et mon mari n'était pas le plus facile à convaincre. Il partait beaucoup du sentiment... oui, toi, c'est bien, c'est honorable, mais qu'est-ce que ça va changer et voilà. Mais bon, petit à petit, c'est même lui parfois qui prend les devants.
Oui, et pourtant, voilà. Il s'est lancé avec toi dans l'aventure de ta société.
Oui, il me soutient.
De ce
ouais.
projet. Donc, il y a eu un grand cheminement de fait. Oui. et pour justement, vu que tout ça est arrivé au moment de ta grossesse, comment tu as imaginé l'arrivée de ce bébé? Parce qu'un bébé, ça peut être très, 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 comment dire, à l'origine de beaucoup de déchets,
oui.
finalement.
Oui, oui.
Y a les couches, il y a les lingettes, il y a les cotons. Enfin, si on y pense...
Un bébé, c'est une machine à déchets, oui.
Voilà. Mm. Et donc, est-ce que tu as essayé de mettre les choses en place avant d'accoucher, au fur et à mesure? Comment t'as trouvé
Alors,
ton équilibre?
Honnêtement, non. Je ne me suis pas mise de pression à l'arrivée du bébé. Je l'ai fait... tout ce qui était autour du bébé, j'ai commencé par deux, trois petites choses, mais j'ai vraiment, je suis passée zéro déchet au bout de quelques mois.
Et est-ce que justement, tu aurais des conseils, alors pour les jeunes mamans, peut-être dans un premier temps, on peut faire pour les jeunes mamans, et ensuite pour étendre plus largement au foyer, pour les gens qui sont un petit peu encore hésitants. Alors premièrement, ma première question, c'est est-ce que financièrement, ça coûte plus cher d'adopter une démarche zéro déchet, à ton avis, ou pas? Parce que souvent, c'est un frein.
Oui, c'est vrai que ça paraît être un frein parce que un peu malheureusement autour du zéro déchet, il y a aussi toute une nouvelle économie qui s'est créée avec beaucoup de mode. Et quand justement on rentre sur un concept qu'on ne connaît pas encore, on a tendance à se laisser guider. Mais parfois, du coup, on se retrouve sur un chemin de la consommation alors que justement le concept est à l'opposé de ça. Finalement, quand on a commencé à vouloir vraiment réduire au minimum, au contraire, on n'a quasiment rien acheté. On a fait avec ce qu'on avait à la maison. Alors toute cette logique d'acheter un sac réutilisable, acheter des pochettes réutilisables, ça dépend. Moi, j'avais toujours des choses comme ça sous la main, j'ai rien racheté de nouveau. Donc non, dans les premiers temps, au contraire, c'était, je me rendais compte que mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé plus tôt? Parce qu'on gagne énormément d'argent sur plein de petites choses. Alors après, il y a d'autres objets sur lesquels il y a un investissement. Et c'est peut-être juste que l'argent est dépensé différemment et plus sagement. Mmh. Voilà. Mais sur le long terme, non, on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui.
Oui, non, mais c'est vrai que pour les pochettes à vrac, etc., c'est super d'en acheter des nouvelles. Mais au final, si on regarde chez soi, on a toujours eu une pochette à bijoux, une pochette
Exactement.
À chaussures.
Là, aujourd'hui, je réutilise encore toutes mes pochettes à chaussures ou de cette époque où j'étais abonnée à des box qui arrivaient tous les mois, qui ont toujours une petite pochette en coton. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'utilise encore. J'ai pas eu d'achat. Souvent, on a quand même beaucoup de ressources sous la main, sans s'en rendre compte. Après, c'est vrai, quand on commence à vouloir passer zéro déchet, on commence à avoir une aversion au plastique. Et on a... tendance à vouloir se débarrasser de tout le plastique qu'on a à la maison. C'est vrai que c'est tentant. Après, il faut faire la part des choses. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un côté esthétique au zéro déchet. On a envie d'avoir des jolis objets. Mais ce qu'on a sous la main, c'est peut-être bien aussi de l'utiliser jusqu'à la fin de vie. Et c'est ce qui fait qu'il faut le voir comme une transition un peu longue. Mais il faut se prendre le temps.
Oui, j'ai d'ailleurs vu un post de Bea Johnson il n'y a pas longtemps où elle disait... mais moi, quand j'ai parlé du zéro déchet, donc Bea Johnson, pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, c'est donc l'auteur du livre Ma vie zéro déchet, donc où elle donne beaucoup, beaucoup de conseils pour mener à bien son projet zéro déchet. Et elle était un petit peu l'une des pionnières dans le milieu, en tout cas en écrire un bouquin et tout ça. Et j'ai vu un post d'elle la dernière fois qui disait « Je regrette en fait que cette mode du zéro déchet en soit arrivée là ». Où on nous dit, alors maintenant pour être des zéro déchet, il faut que tu achètes tant de sacs, alors que chez toi, tu as déjà des sacs que tu peux réutiliser jusqu'à ce qu'ils soient percés ou trop abîmés pour les utiliser. Et elle regrettait un petit peu ça, en fait. Elle disait le zéro déchet, c'est surtout se concentrer sur l'achat d'objets durables.
Exactement.
Et de beaux objets durables, mais que pour les petites choses du quotidien, les pochettes, etc., on a toujours ce qu'il faut sous la main. On peut toujours recoudre une taie d'oreiller et la transformer. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et je pense que pour les auditeurs, il ne faut pas se laisser impressionner. Il y a un côté un petit peu, je trouve, angoissant dans le zéro déchet, quand tu commences à t'y intéresser vraiment, où tu peux vite avoir l'impression qu'on va te juger si toi, tu as justement généré tel ou tel déchet, ou si tu n'as pas cet objet.
Non, mais complètement. Je pense qu'il y a, le même parallèle avec, avec les véganes. Si on les voit manger un œuf, on a l'impression, bah alors, t'es pas végane. Et dans les déchets, c'est pareil. C'est... On essaye d'être zéro déchet, on en fait quand même. Mais c'est vrai que parfois, bah, il y a le jugement des autres. Donc, c'est dommage parce que ça crée un frein. Parce que du coup, on se dit, soit c'est all-in, soit c'est rien du tout. Et alors que non, si on est des millions de personnes à faire les choses à moitié, c'est déjà mieux que la situation actuelle. Donc, on a tous à gagner, même à faire quelques petits efforts ici et là.
Et à Hong Kong, justement, comment tu as senti l'évolution, toi qui es là depuis 6 ans? Est-ce que tu constates des changements? Est-ce qu'au début, c'était compliqué pour toi de faire tes courses en mode zéro déchet?
Oui et non. Bah, les choses se simplifient. Il y a beaucoup plus d'options aujourd'hui, donc ça rend les choses plus abordables. Et après, il y a quelque chose qui existe à Hong Kong qui est quand même un avantage, c'est qu'il y a encore tous les petits marchés. Donc c'est assez facile de faire ses courses, en tout cas pour tout ce qui est fruits, légumes, les œufs. On peut trouver en vrac, on peut même trouver les graines, les amandes. On trouve beaucoup de choses dans les marchés de rue. Après, pour tous les produits plus ou moins exotiques, c'est-à-dire qui ne sont pas asiatiques, c'est un peu plus dur. Mais il y a eu un mouvement avec beaucoup de shops qui ont ouvert dans l'année ou l'année dernière qui permettent... de trouver vraiment tout sans faire de compromis. Et ça choque beaucoup moins aussi maintenant quand on rentre, ne serait-ce que dans un supermarché, mais qu'on tend le top au comptoir, qu'on tend le top au le sachet à la boulangerie. Tout le monde a l'habitude finalement, c'est devenu un peu plus la norme. Donc ça fait plaisir à voir. On se dit qu'au moins les choses bougent. Reste encore beaucoup de choses à faire. On est quand même dans une société qui n'est pas ultra sensibilisé, mais ça bouge et ça fait plaisir. Bah, l'un des avantages, c'est que comme on a un ensemble d'îles ici, les déchets, on les voit beaucoup plus vite sur la plage, dans les eaux. On est sur l'un des flux, donc on se retourne, le boomerang nous revient plus vite dans la figure, là où dans d'autres pays, c'est peut-être justement pas visible.
Et puis on est très nombreux. Donc c'est vrai que la quantité de déchets générés, il suffit de regarder les poubelles dans la rue, combien de fois elles sont changées. Quand à Paris, qui est donc la capitale de la France, c'est une fois par jour. Ici, je pense qu'on est plutôt sur une dizaine de fois. Donc c'est vrai qu'on en prend aussi conscience. Et donc, à la fin de ta grossesse, ou peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, tu as décidé, en parallèle de ton travail actuel, de créer ta propre société et de t'investir justement encore plus dans le zéro déchet en proposant un produit.
Ouais.
Comment ça t'est venu? Est-ce que tu avais toujours eu envie, au fond de toi, de créer quelque chose et finalement, toutes les planètes se sont alignées et ça s'est bien trouvé ou...
Bah, j'ai toujours voulu créer ma boîte. J'ai fait un master entrepreneuriat. J'ai jamais envisagé les choses autrement. Je savais que tôt ou tard, j'allais le faire. Les planètes n'étaient pas alignées, mais je commençais à me dire justement qu'elles ne le seraient jamais. Donc, à un moment, il fallait y aller. Une fois que j'avais accouché, j'ai commencé un peu à réfléchir à ce que je voulais faire et j'avais plein d'idées, mais je voulais aussi avoir vraiment un projet qui ait du sens. Et j'ai commencé à réfléchir un peu à ce qui, autour du zéro déchet, ce qui, moi, m'avait changé la vie. Et il y a 2-3 objets qui ont vraiment été des révélations. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai pas connu ça plus tôt. Et les rasoirs de sécurité, ou les rasoirs de sûreté en français, fait partie de ces objets-là. J'ai toujours eu la peau très sensible. Et le jour où, pour des raisons de zéro déchet, j'ai investi dans un rasoir en métal avec une lame unique. Je me suis rendu compte que j'avais la peau qui ne rougissait plus du tout après le rasage. Voilà, donc pour moi, la révélation. J'ai commencé à me renseigner du coup sur pourquoi, quelle est la différence entre les rasoirs conventionnels, entre les rasoirs traditionnels qu'on peut trouver en supermarché et ce rasoir qui est finalement ce qu'on utilisait tous et toutes avant l'apparition du plastique et qui fonctionnait pour tout le monde. Et donc l'idée est partie de là et j'ai commencé à en parler autour de moi et surtout à mes amis, à mes copines. Ce qui revenait souvent, c'était mais c'est un peu, ça m'intimide, j'ai peur, c'est très masculin, mais t'es sûre que je peux utiliser ça? Et en fait, je m'en suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne se sentaient pas légitimes à utiliser cet objet-là. Donc voilà, j'ai voulu en faire un qui soit peut-être un peu plus élégant, un peu plus féminin, en travaillant pas seulement sur le look, mais aussi sur la façon dont le rasoir fonctionne, en ayant une inclinaison de la lame qui est moins agressive, puisque finalement, on ne rase pas une grosse barbe devant un miroir. Donc on n'a peut-être pas besoin d'avoir une lame qui est avec une inclinaison si agressive que ça. Voilà, et deux, trois petits détails qui rendent finalement l'utilisation plus agréable pour les femmes.
Alors, est-ce que tu peux décrire ce rasoir? Parce que si on a des auditeurs qui ne connaissent pas les rasoirs de sécurité ou de sûreté, c'est vrai que ça peut être un petit peu confusant.
Oui, c'est vrai que c'est un des grands challenges de cette compagnie, c'est au final de devoir expliquer. Parce que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, même quand je dis voilà, j'ai développé un rasoir de sûreté spécialement conçu pour les femmes. Mais c'est quoi un rasoir de sécurité? Donc en fait, c'est un rasoir dont le manche et la tête sont entièrement en métal. Et au lieu d'être jetable, donc on le garde potentiellement à vie. Et la seule chose qui se change, c'est une lame en métal telle qu'on les trouve en pharmacie. Donc c'est lames universelles qui sont coupantes des deux côtés, qui sont 100% en acier inoxydable et qui sont donc entièrement recyclables. Donc c'est la seule lame qu'on insère dans le rasoir. Et en montant le rasoir, la lame s'incurve. Et c'est ça qui donne le pouvoir de se raser sans se couper.
Et donc là, en fait, tu limites complètement les déchets, puisque un rasoir, en temps normal, même ceux qu'on achète assez cher, j'ai en tête des rasoirs à 20, 25 euros, mais ils restent en plastique.
Oui.
Et donc même si on change la tête, toute la tête, il y a quand même tout un contour en plastique. Il y a souvent aussi une bande entre les lames un peu...
Oui.
Ils disent que c'est de l'aloe vera, mais c'est clairement pas de l'aloe vera.
Ouais, si on regarde tous les ingrédients,
il y a peut-être de l'aloe vera dedans.
Ouais, c'est aujourd'hui, il y a deux types de rasoirs jetables. Il y a ceux qui sont entièrement jetables, et il y a ceux dont on garde le manche et on change la tête. Dans les deux cas, la partie qu'on jette, à moins d'être un expert du démantelage, n'est pas recyclable puisqu'il y a un mix de métal, un mix de plastique, souvent avec un peu de latex ou de silicone autour. Donc ce n'est pas recyclable, donc c'est un déchet qui n'est pas traitable. En plus de ça, comme tu en parles, donc il y a souvent ces bandes qui sont rajoutées. De ma part, je pense qu'il y a un côté marketing, plus ou moins. Ce sont des produits qui ne sont pas toujours sains. Certains sont listés comme non safe. Et pourtant, ils sont commercialisés. Donc voilà. Donc l'avantage aussi dans un rasoir de sûreté, c'est qu'on sait qu'on n'a aucun produit chimique. Voilà. On est 100% métal.
Et donc, quand tu as voulu développer ce produit, qui n'existait pas, vu que ce que tu disais en amont, ça existait pour les hommes, mais un petit peu intimidant, pas la même épaisseur.
Oui. En soi, ça existe pour les hommes comme pour les femmes. L'objet est le même. Mais oui, je voulais que les femmes se sentent capables de pouvoir utiliser un objet comme ça et donc d'avoir une marque qui leur parle, qui soit une sorte de communauté d'entraide où justement on puisse se pousser les unes les autres. C'est un objet qui existe depuis le 19e siècle. Que quelqu'un le fasse pour les femmes, non, ça ne se faisait pas. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire là.
Et toi, étant basée à Hong Kong, tu as fait le choix de développer ce produit en Chine.
Oui.
Pour justement, pour limiter l'empreinte carbone du produit, pour ce qui fait sens, vu que tu es juste à côté de la frontière chinoise. Alors, comment tu t'y es pris? Tu as contacté des usines? Comment tu as fait? Ça a été compliqué. Je te vois sourire.
Oui, c'est... faut quand même se dire que ben, déjà une toute petite entreprise qui veut travailler avec usine, c'est déjà pas facile. Être une petite nana qui commence à contacter des gros producteurs, ça ne fonctionne pas. Et au final, j'ai quand même eu un coup de chance, que j'ai trouvé une usine ou un petit atelier qui est vraiment pas grosse du tout, à taille humaine, et qui du coup a accepté de travailler avec moi. Voilà, qui a accepté de travailler avec moi sur le design, de travailler avec moi sur personnaliser le rasoir tel que je l'entendais. Un gros coup de chance. Honnêtement, bon, on a un peu fouillé, ça a pas été tout repos, mais on est content.
Quand tu dis on, c'est ton mari et toi?
Je dis on, pour l'instant l'entreprise est encore à ses débuts, je suis quasiment toute seule. Mon mari est là aussi pour me soutenir, pour m'écouter à la fin de la journée quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, et il m'aide aussi beaucoup. Je pense qu'il va bientôt s'impliquer de plus en plus parce que je vais avoir besoin de bras forts pour continuer l'aventure.
Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ou qui t'a freiné au début où tu te disais ah non, ça va vraiment être trop dur pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que t'appréhendais? Tu sais, on a tous nos petites craintes ou nos angoisses qui sont parfois pas fondées.
Bah, ma plus grosse crainte, c'était qu'il n'y ait peut-être pas de marché parce que... des rasoirs de sûreté, il y en a, mais s'il n'y a aucune marque qui vraiment s'est dédiée aux femmes, est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi? Peut-être qu'en fait, il n'y a pas tant de demandes que ça. Est-ce que... Voilà. Donc, il y a toujours cette crainte-là. C'est un marché qui est assez nouveau, un marché de niche. Donc, est-ce qu'on va réussir à trouver assez de demandes pour que le fait de créer une compagnie et une marque ait un sens? Voilà. Après, il y a des choses qui font peur... Oui, tout le temps, tout le temps. C'est pas tout repos. Créer sa compagnie, sa boîte, c'est ça ramène un petit peu tous les démons, le manque de confiance en soi, les longues nuits de travail. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est ça qu'on attend de moi? Voilà. Après, j'ai essayé depuis le départ de me concentrer sur mettre quelque chose devant les clientes et travailler à partir de là. Donc, je suis allée plutôt vite dans ce sens-là. J'ai commencé à mettre un site en ligne avec une sélection de rasoirs qui n'étaient pas les miens, mais qui m'ont permis d'avoir des premières clientes ou des premières potentielles clientes qui me disaient, voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça, ce que j'aime pas, c'est ça. Et voilà, et à partir de là, on a commencé à broder et à construire le projet.
Et donc, tu as pu créer ton propre modèle.
Voilà.
Qui est celui que tu proposes aujourd'hui.
Exactement, et aujourd'hui, je ne propose plus que celui-là, puisque, ben, au final... C'est mon petit bébé. On va probablement le décliner dans d'autres couleurs. Ça, c'est un purement esthétique, du coup, pour que ce soit au goût de chacun. Il y a encore des petites améliorations ici et là que j'ai déjà en tête. Mais pour ceux qui ont déjà tenté de créer des produits en dur avec des moules et du design, c'est pas si facile que ça. Donc je me prends le temps. Voilà. Parce que selon ce que je veux mettre en place, il y a toujours des minimums de commandes. Et il faut être sûr de son coup.
Bien sûr. Et comment ça a été accueilli justement par tes premières clientes?
Pour l'instant, très bien. Je ne me plains pas. Ça marche mieux que ce que je pensais. Ça fait plaisir parce que je me dis qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Il y a effectivement des personnes qui attendaient depuis longtemps de passer à cet achat, mais qui hésitaient, qui ne savaient pas si c'était le bon parce que... Justement, on est dans un milieu où on prône un achat conscient. Donc, les gens réfléchissent pendant très longtemps à ce qu'ils vont acheter, pourquoi. Donc, je passe beaucoup de temps, j'ai beaucoup de messages en privé sur des questions, comment l'utiliser. Voilà. Donc, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, j'essaie de mettre ça en place. Et j'ai été là moi aussi, puisque avant d'acheter mon premier rasoir de sûreté, je pense que j'y ai pensé pendant quelques semaines aussi, avant de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que j'en prends un autre, est-ce que je vais réussir à l'utiliser, est-ce que je vais me couper, est-ce que... voilà.
Et en fait, une fois qu'on a ce rasoir, on peut l'utiliser toute la vie, a priori, enfin de très très longues années.
Oui.
Il faut juste changer les lames, j'imagine.
C'est ça. Donc, chaque lame, ça dépend de chacune et de son utilisation. C'est, en général, on conseille entre 5 à 10 fois ou dès qu'on sent que le rasage n'est pas aussi net qu'avant.
Et donc, une fois que tu as eu ton modèle, Enfin non, même avant au final, parce que tu disais que tu as proposé quelques rasoirs qui n'étaient pas encore exactement celui que tu avais en tête.
Oui, je pense que j'ai embêté toutes mes copines et tout être féminin qui passait par là. J'ai toujours mes modèles avec moi dans le sac pour les présenter. Ou même à l'époque, j'avais toujours dans mon sac une dizaine de prototypes pour voir lesquels plaisaient le plus en termes de feeling dans la main aussi, puisque le poids du rasoir... compte beaucoup de la prise en main, la longueur du manche, etc. Donc
ce sera un conseil que tu donnerais aux auditeurs qui souhaiteraient entreprendre ou se lancer dans un projet, qui ont une idée, c'est de vraiment en parler autour de soi pour prendre les ressentis, oui. Les conseils. Est-ce que ça t'embrouille pas un petit peu de faire ça ?
Non, je pense que c'est absolument essentiel. Si ça embrouille, c'est que peut-être la réponse face au marché n'est peut-être pas si claire que ça. On a tendance à vouloir toujours garder ses projets pour soi au début, de peur de se les faire voler. C'est un sentiment naturel, parce que quand on réfléchit à son bébé, on n'a pas envie que tout tombe à l'eau, mais la compétition, elle arrivera tôt ou tard. Je suis en train de la voir arriver, donc il faut que je me prépare. Après, moi, je dirais... Quand on veut monter un projet, ça dépend des projets, mais le plus tôt on en parle, le plus on a de ressenti client et le meilleur sera la solution. On ne peut pas deviner ce que les gens veulent, parfois même les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc voilà, non, c'est important de parler de ce qu'on veut faire, d'avoir les ressentis, ça évite de perdre du temps plus tard.
Oui, toi tu as vraiment pris le parti de te lancer même assez tôt hein, finalement.
Oui, même avant d'être prête, oui. ça fait peur.
Avec ton site, voilà, même tes packs, tes logos, tu es toujours en train d'y réfléchir, tu es toujours dans cette démarche d'amélioration. Mais c'est vrai que tu n'as pas attendu finalement de te dire « allez, là ça y est, je suis prête ». Est-ce que c'est parce que tu penses que ce moment n'arrive jamais?
Oui, je pense qu'il n'arrive jamais. Je pense que si on attend, comme tu reprenais l'expression au début, que toutes les planètes soient alignées, ça n'arrive jamais. Je suis assez partisane de saute de l'avion et construis-toi ton parachute en cours de chemin. Il n'y a que comme ça qu'on avance vraiment.
Et donc, pour le nom et le logo et le design, est-ce que là aussi, c'est toi qui as tout fait ?
Ouais, alors pour l'instant, c'est tout est fait... Tout est fait homemade, on va dire. J'ai la chance d'avoir un petit peu un passé de design derrière moi. J'ai fait un petit peu de graphisme. J'ai aussi fait de l'analytique financière. J'ai été un peu multicasquette. Je suis un peu comme ça. Donc, c'est une force, c'est une faiblesse. Je suis experte en rien, mais je sais faire un petit peu de tout. Donc, pour l'instant, tout est fait à la maison. Le nom, ça a été une des choses les plus compliquées. C'est important. Ça reflète, la sonorité reflète déjà une idée, une image de marque. Donc, Beraya, d'où ça vient, c'est donc pour celles qui ne sont pas anglophones, Bear en anglais, ça veut dire à nu, la simplicité, le retour à l'essentiel. Et Aya, c'est un mot japonais qui veut dire la beauté. Et en vieil allemand, ça veut dire l'épée. Je trouvais que c'était un beau rappel à la lame, à ce petit outil qui peut être une arme pour combattre les déchets. Voilà.
Ah ouais.
Donc c'est comme ça qu'est né Beraya.
Je ne savais pas pour le vieil allemand. Très intéressant.
Ouais. Moi, j'ai quand même, je viens de la frontière allemande, j'ai trouvé ça... Je me dis, allez, ça me ressemble.
C'est un clin d'œil à tes origines
voilà.
En plus, c'est pas mal. Et après, pour les packaging, pareil. Tu as tout imaginé toute seule. J'imagine que tu l'as voulu le plus minimaliste et sans plastique, bien évidemment.
Ah, sans plastique. Il n'y a pas une once de plastique dans nos packagings. Tout est pensé pour être minimaliste. J'essaie de trouver le juste milieu entre quand même avoir une jolie expérience client quand la personne ouvre sa boîte, mais sans gâcher du packaging qui finalement n'est voué qu'à partir à la poubelle dès qu'il est ouvert. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mettre des boîtes dans des boîtes, ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, le rasoir, il vient dans une poche en coton organique. Ça permet de le protéger pendant le voyage. On va avoir une gift box, mais qui sera en option, pour que ce soit uniquement pour les personnes qui veulent l'avoir ou pour l'offrir en cadeau. Mais sinon, tout est en papier craft, tout est recyclable ou réutilisable.
D'accord. Et quelles sont les prochaines étapes pour toi alors ? Parce que un rasoir, forcément, tu en as développé un. Tu disais que vous allez peut-être le développer dans d'autres couleurs.
Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une gamme pour venir compléter le rasoir. Donc, le prochain produit qui va sortir, c'est une barre de rasage qui sera entièrement vegan, sans huile de palme, qui est faite à la main avec un process à froid. Donc, ça prend du temps parce que entre chaque échantillon et entre chaque mise en production, il y a 4 à 8 semaines de séchage pour voir le rendu final. Donc là, si tout se passe bien, dans une semaine, on l'aura en ligne.
Et est-ce que tu vas peut-être participer à des événements, ce genre de choses, pour te confronter aussi en direct? Parce que pour l'instant, tu fais que de la vente par Internet.
Oui, aujourd'hui, nos channels de distribution, c'est uniquement un site en ligne. On commence aussi à vendre à des retailers, à des revendeurs qui, pour l'instant, sont eux qui nous ont contactés. Oui, donc on va commencer le mois prochain à participer à des événements pour être plus en contact aussi avec les clients potentiels, voir quelles sont encore les autres attentes, ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, etc.
Et en sachant que, vu que tu travailles par Internet, tu livres partout dans le monde. Donc, nos auditrices qui sont en France peuvent tout à fait commander le rasoir, même si tu es basée à Hong Kong, et que c'est seulement la fabrication du rasoir et des shaving bars et de tout ce que tu vends et vas vendre,
ouais,
qui est local, parce que c'est ce qui fait sens, plutôt que de te faire envoyer quelque chose du Mexique à Hong Kong, puis
exactement,
le renvoyer en France,
ouais,
ça n'a pas de sens.
Mais même là, la matière première du rasoir est sourcée à quelques dizaines de kilomètres de l'atelier. L'atelier, je peux aller leur rendre visite facilement. Donc voilà, la seule empreinte carbone finalement de ce produit, c'est quand il va vers le client.
Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver le juste prix, justement? Parce qu'un rasoir jetable, ça coûte quelques euros. Je pense qu'on peut l'acheter pour moins de 5 euros. Enfin, ça dépend, parce qu'avec la taxe féminine...
Oui, ça va coûter un peu plus cher.
C'est plus cher pour les filles que pour les garçons. Non, mais plus sérieusement, comment t'as fait, en fait, pour trouver un juste prix qui soit viable pour toi, pour l'atelier avec lequel tu travailles, pour tes clientes aussi, pour pas que ça représente un achat trop conséquent, qui soit,
ouais,
limité à une certaine catégorie de personnes?
Bah oui, je voulais... c'est vrai que on est face à un objet où... Quand on construit quelque chose, on se pose beaucoup de questions sur le positionnement. Et je pense que la clé pour moi, ça a été vraiment de me dire, mais qu'est-ce que je veux comme cliente et qu'est-ce que mes clientes attendent. Et c'est vrai que, quand je disais au début, quand on commence une démarche zéro déchet, il n'y a pas beaucoup d'investissement. Il y a 2-3 objets qui sont un investissement. Celui-là, en l'occurrence, c'en est un. Après... Voilà, par rapport au prix de vente aujourd'hui, si on considère avec les rasoirs qu'on achète au supermarché, le prix des cartouches surtout, parce que le système aujourd'hui fait que le manche n'est pas cher, mais les recharges sont extrêmement chères. Donc au final, le rasoir tel que je le vends aujourd'hui avec le prix des recharges, c'est rentabilisé en 3-4 mois. Peut-être 6, selon la
fréquence d'utilisation.
Exactement. Donc au final, ça peut faire peur de premier abord, surtout qu'on parle d'un rasage. Le rasoir est un objet qui... est vu comme une commodité, quelque chose qu'on n'a pas forcément, on n'y met pas de la valeur. Mais là, justement, j'ai voulu faire un objet joli qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de chérir et de prendre soin pour justement garder très longtemps.
Ouais, je pense que ça, le rasoir fait un peu partie de ces objets comme la cup, par exemple.
Oui.
Où on va dépenser une trentaine d'euros alors qu'on est habitué à aller s'acheter un paquet de Tampax ou de serviettes hygiéniques pour 5 euros. Mais au final, quand on pense qu'on fait ça tous les mois,
exactement,
et ben c'est très vite rentabilisé, mais
ouais,
ça fait partie de ces objets pour lesquels il faut sauter le pas et juste calculer et se dire, oui, mais en fait, là, peut-être que je dépense un petit peu plus de sous, mais dans 6 mois, j'aurai largement rentabilisé,
exactement,
mon achat et j'y penserai même plus.
D'ailleurs, la cup, un autre objet qui était une révélation.
Oui, un indispensable. Ça. Même au-delà de la démarche zéro déchet, je pense qu'au niveau de la santé...
J'ai eu le même sentiment, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas connu ça plus tôt?
Oui, c'est clair. Et donc là, ça fait un an à peu près que tu travailles sur ce projet, 6 mois qu'il a vu le jour.
Oui, à peu près.
Comment ça se passe au quotidien avec un petit bébé, un travail, parce que tu travailles toujours en part-time? Et Beraya?
C'est beaucoup de négociations, beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. Après, le temps est quelque chose qu'on arrive parfois à comprimer. Si on ne fait rien, on arrive tout d'un coup à avoir une journée, on n'a rien fait. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Parfois, on se surprend, on arrive à faire plus de choses que ce qu'on pensait. Après, j'ai quand même beaucoup d'aide. Voilà, je parlais de mon mari avant qui me soutient beaucoup et qui est là quand il y a besoin. J'ai aussi le soutien de ma nanny qui est là pour m'aider avec, avec mon fils justement et qui me permet de continuer à bosser tout en ayant une vie de famille.
Parfait, Marjorie, merci beaucoup. Comme d'habitude, j'indiquerai donc en barre d'infos ton site internet, ton compte Instagram, bien évidemment. Pour les auditeurs et les auditrices qui sont à Hong Kong, donc tu participes à plusieurs salons ici, donc ce sera peut-être l'occasion de te rencontrer.
Oui.
Pour celles et ceux qui sont en France ou en Belgique ou en Europe, le site internet reste ouvert, tu réponds à toutes les questions.
Oui.
Et puis moi, je mettrai des photos de toute façon sur le site, comme ça on se rendra encore mieux compte. Et pour les gens qui ne connaissent pas cet objet, ce sera aussi l'occasion de le découvrir.
Ok, bah super.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
Avec plaisir.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et surtout à laisser un avis sur la plateforme d'Apple Podcast. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très bientôt !